vous propose que nous commencions par invoquer celle dont nous allons parler en disant le « Je vous salue Marie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors vous êtes normalement en possession d'une petite feuille qui vous livre non seulement le plan de ce que je vais essayer de dire en peu de temps, et puis quelques beaux textes de la tradition qui situe bien le problème. Comme ça, vous aurez au moins de beaux textes, et si ce que je dis est ennuyeux, vous pourrez lire ici même, si vous y arrivez, ou chez vous, avec une loupe, les textes qui sont sur vos feuilles. Alors d'abord, j'ai bien conscience que cette question de Marie corédemptrice est une question qui peut être polémique. Souvent, elle l'est, parce que on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce que les mots veulent dire. Et souvent, on n'a pas fait les distinctions nécessaires. Alors, je commence, dans ma petite introduction, situation de la question, par faire une distinction tout à fait importante, qui est la distinction de la rédemption objective et de la rédemption subjective. On appelle rédemption objective l'acte même du salut, que le Christ Jésus nous a acquis en mourant pour nous sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. C'est le salut que Jésus a opéré. On appelle rédemption subjective la dispensation de ce trésor de salut au cours des âges, aux différentes générations et à tous les fidèles qui y adhèrent par la foi. Il faut donc distinguer l'acquisition de ce trésor de salut et la dispensation de ce trésor, rédemption objective et rédemption subjective. On voit très bien ces deux plans dans l'encyclique du pape Pie XII, Mystici Corporis, en 1943. Et c'est ainsi que nous lisons dans le premier texte, « Tandis qu'en mourant sur la croix, le Christ a communiqué à son Église, sans aucune collaboration de sa part, le trésor sans limite de sa rédemption, quand il s'agit de distribuer ce trésor, non seulement il partage avec son épouse immaculée l'œuvre de la sanctification des âmes, mais il veut encore que celle-ci naisse, pour ainsi dire, de son travail. Mystère redoutable, certes, et qu'on ne méditera jamais assez. Le salut d'un grand nombre d'âmes dépend des prières et des mortifications volontaires supportées à cette fin des membres du corps mystique de Jésus-Christ et du travail de collaboration que les pasteurs et les fidèles, spécialement les pères et les mères de famille, doivent apporter à notre divin Sauveur. Il faut donc avoir bien en tête cette distinction, rédemption objective que Jésus seul nous a acquise, et rédemption subjective auquel tous les fidèles participent en propageant la bonne nouvelle du salut et en ouvrant leur cœur à la foi. Cependant, cette distinction, notons-le, n'est pas chronologique. On aurait tendance à penser que d'abord Jésus a acquis le trésor de salut, puis après on le distribue peu à peu. Non, le trésor de salut acquis par le Christ vaut pour tous les hommes de tous les temps. De sorte, nous le savons bien, que la Vierge Marie elle-même est la plus belle et la plus grande bénéficiaire de ce trésor de salut acquis par son Fils, et que si elle a ce privilège d'être l'Immaculée Conception, c'est par une grâce venant déjà de la mort de son Fils. Autrement dit, les effets de la rédemption se propagent même en amont de la rédemption, bien avant, dans le cours des temps et sur tous les âges. Un peu comme quand une pierre vient frapper un lac, les remous se font sur tout le lac, devant, derrière, à côté, partout. Les effets de la rédemption opérée un jour du temps par Jésus-Christ valent pour toute la donnée de l'histoire. Alors, avec cette distinction bien en tête, rédemption objective, rédemption subjective, nous devons nous demander que voulons-nous dire lorsque nous posons la question de Marie corédemptrice. Car en un sens, nous sommes tous corédempteurs. Effectivement, si on parle de la rédemption subjective, nous avons tous un rôle. Nous devons ouvrir notre cœur au salut. Et comme disait saint Augustin, dans une phrase très souvent citée, je vous ai mis le texte, comme ça vous aurez les références précises de cette citation que l'on fait très souvent de saint Augustin, « Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous. » Donc nous avons une part importante, décisive, essentielle, dans notre propre salut. Certes, si nous ouvrons notre cœur au salut, c'est déjà par une grâce venant du Seigneur, car je ne voudrais pas tomber dans l'hérésie semi-pélagienne. Cependant, il est vrai que quelque chose est attendu de nous et que, ne serait-ce que pour notre propre salut, cela dépend de nous. En ce sens, nous sommes co-rédempteurs parce que nous diffusons la rédemption subjective. Nous contribuons à la diffusion de ce trésor de salut acquis par le Christ. Et même, nous pouvons faire davantage que cela, puisqu'effectivement, à chaque fois que nous prions pour quelqu'un, à chaque fois que nous diffusons la bonne nouvelle du salut, à chaque fois que nous offrons des sacrifices pour le salut du monde, nous participons en union avec le Christ à la dispensation de la rédemption. Mais alors, si tout le monde est co-rédempteur, et après tout, saint Paul lui-même dit aux Corinthiens, vous êtes les coopérateurs de Dieu dans l'œuvre du salut, alors si tout le monde est co-rédempteur, on ne voit pas pourquoi ça fait tant de difficultés de dire que Marie est co-rédemptrice. Eh bien, c'est parce que c'est évidemment pas en ce sens-là qu'on veut dire que Marie est co-rédemptrice. Bien sûr, Marie participe, et à un titre éminent, à la diffusion des grâces. Elle est même médiatrice de toute grâce. Toutes les grâces qui sont destinées à ce triste monde passent par les mains de Marie. En ce sens-là, elle a un rôle éminent dans la dispensation des trésors du salut. Mais ce n'est pas cela qu'on veut dire lorsqu'on dit qu'elle est Marie, qu'elle est co-rédemptrice. On veut dire, on pose la question, en quel sens, comment, de quelle manière la Vierge Marie a-t-elle participé à l'acquisition du salut, à l'acte par lequel le Christ a opéré le salut du monde. A-t-elle, avec le Christ, en union avec lui et en dépendance de lui, opérer le salut du monde? C'est cela, la question de la co-rédemption mariale, c'est une question qui se situe au niveau de la rédemption objective. La doctrine de la co-rédemption n'est donc rien d'autre que celle qui attribue à la Vierge Marie un rôle personnel dans l'acquisition du salut. Alors, qu'en est-il? Quel rôle a joué Marie dans l'acquisition du salut? Maintenant, il est bien acquis que lorsque nous parlerons de co-rédemption, nous ne parlerons que de la rédemption objective. D'abord, évidemment, il nous faut méditer sur la scène de l'Annonciation, la Vierge du Fiat. Nous connaissons bien cette scène de l'Annonciation, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, et vous savez comment ce récit en Saint-Luc peut être vu, et il l'est par les exégètes récents, non seulement comme un récit d'annonciation, mais comme un récit de vocation. Et cela, c'est très important. En effet, vous savez que tous les écrits se coulent dans un certain genre littéraire. Et les écrits bibliques ne font pas exception. Il y a des genres littéraires dans la Bible. Il y a le genre littéraire annonciation de naissance. Il y a le genre littéraire vocation aussi. Les vocations dans la Bible suivent presque toujours le même schéma. Dieu appelle « Moïse, Moïse !» Dieu donne une mission « Va trouver Pharaon !» L'intéressé, en général, émet une réserve, une réticence. « Ah mais non, mais je ne sais pas faire, mais je suis bègue, je ne sais pas parler, pourquoi moi, trouve-en un autre ?» Et puis, Dieu finit par conclure, de manière dirimante, par une parole forte, « Va, je serai avec toi. » Puis, Dieu donne un signe. Et voici le signe, vous adorerez Dieu sur cette montagne. Si vous reprenez le schéma, le récit de l'Annonciation selon saint Luc, vous verrez que cela suit tout à fait ce schéma de vocation. Dieu appelle. Ave Maria. Je vous salue, comblée de grâce. Puis, il donne une mission. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. La Vierge Marie pose une question. Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? Dieu répond par une question tranchante, par une réponse, une affirmation tranchante. L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis Dieu donne un signe, et voici le signe. Élisabeth, ta parente, est enceinte et elle en est à son 6e mois. Nous voyons comment le schéma vocation est tout à fait reproduit, très consciemment, par Saint Luc. Cela veut dire que la scène de l'Annonciation n'est pas seulement une Annonciation. Cela veut dire que la scène, le récit en Saint Luc de l'Annonciation est aussi un récit de vocation. La Vierge Marie reçoit ce jour-là une vocation particulière dans l'histoire du salut. Elle épouse à plein cœur le projet de Dieu de salut. Elle n'a pas donné simplement à ce projet de salut, elle n'est pas simplement un instrument passif aux mains de Dieu, mais elle a donné au projet de Dieu la liberté de sa foi et de son obéissance. C'est le texte du Concile Vatican II dans Lumen Gentium, vous le lirez, le texte 4, où il est dit que Marie n'est pas un instrument passif, simplement, mais qu'elle offre la liberté de sa foi et de son obéissance. Effectivement, quand on lit le récit de l'Annonciation, il faut en venir à ce fiat de Marie. Ce fiat, c'est pas simplement un « oui, bah oui, puisqu'il en faut bien une qui soit la mère, j'accepte ». Non, c'est un « oui » enthousiaste, c'est un « oui » décidé, c'est un « oui » plein d'un élan. Sœur Jeanne d'Arc, qui était une bibliste, qui a fait une très belle traduction de l'Évangile, du grec en français, propose de traduire la forme verbale grecque employée par « oh oui, qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est important de noter cet empressement de la Vierge qui épouse à plein cœur la volonté divine de salut. Alors, dans quelle mesure ce « oui » est-il nécessaire au salut du monde ? Voilà une autre question qui va nous amener à une autre distinction. Le fiat de Marie est-il nécessaire à l'incarnation ? Oui et non. Ça dépend de quelle nécessité on parle. Les philosophes distinguent en effet la nécessité absolue. Il faut respirer pour vivre, ou bien la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés, tout cela est de nécessité absolue. Mais à côté de la nécessité absolue, il y a ce qu'on appelle la nécessité ex hypothésie, une nécessité selon l'hypothèse qu'on s'est donnée. Par exemple, si je veux aller le plus vite possible d'un point à un autre, il faut que je suive la ligne droite. Bien qu'absolument parlant, je puisse rejoindre cet autre point en faisant des courbes et de manière sinueuse. Mais selon l'hypothèse que je me suis donnée d'aller le plus vite possible, il faut que je suive la ligne droite. Le oui de Marie, le fiat de Marie, est nécessaire à l'incarnation du Seigneur selon cette nécessité ex hypothésie. Le oui de Marie n'est pas nécessaire absolument parlant à l'incarnation, car Dieu, à qui rien n'est impossible, aurait pu choisir un tout autre moyen de nous sauver. Et il aurait pu, même ayant décidé l'incarnation, choisir un tout autre mode de s'incarner. Mais selon l'hypothèse selon laquelle il voulait faire participer l'être humain à sa propre rédemption, le fiat de Marie devient nécessaire. En effet, Dieu, par miséricorde, a voulu que la créature participe autant que possible à son rachat. Il est permis de déclarer le fiat de Marie nécessaire d'une nécessité hypothétique à la rédemption. La nécessité dont il s'agit est alors très réelle, mais comme incluse dans la volonté divine d'une collaboration de l'humanité à l'œuvre du salut. C'est une nécessité sous cette hypothèse. Alors vous connaissez certainement les admirables textes de Saint Bernard qui montrent toute la création à genoux devant la Vierge Marie et la suppliant de dire ce oui, cette parole qui sera pour eux leur libération et leur salut. Il y a le pitoyable Adam, la misérable Ève qui sont là aux pieds de Marie et qui disent « Ô Marie, dites-le ce oui qui sera notre rédemption, dites seulement une parole et nous serons guéris. » Très beau texte de Saint Bernard. Mais je voudrais vous citer un autre texte, peut-être moins connu, qui vient du cardinal de Bérulle et de l'école française et qui met en rapport le fiat de la Vierge Marie avec le fiat de Dieu au matin du monde. Car la première parole du Dieu créateur est « Fiat lux », que la lumière soit, et la lumière fut. Or, le cardinal de Bérulle, avec l'audace des grands théologiens, va jusqu'à dire que le fiat de Marie est plus considérable en ses effets que le fiat de Dieu au matin du monde. En effet, si le fiat de Dieu a fait surgir la créature, le fiat de Marie a fait surgir le Créateur. Vous lirez, c'est le texte 6 sur vos feuilles. La Vierge Marie a dit oui de manière consciente et libre. Elle sait qui elle va mettre au monde et qui elle porte. Elle sait aussi qu'elle entre ainsi dans sa vocation et dans la vocation de son Fils pour le salut du monde. Dès l'Annonciation, elle devient notre mère dans l'ordre de la grâce. En effet, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, dit le Concile Vatican II. Et effectivement, la Vierge Marie porte en son sein le Verbe fait chair et elle porte non seulement la tête, mais le corps de son Fils tout entier, et le corps de son Fils, c'est l'Église. Elle porte donc, nous tous, tous les fidèles de l'Église, en son sein. Elle est la mère des choses recréées, quand Dieu est le Père des choses créées, dit saint Anselme. La Vierge Marie est la mère du Christ total, pour parler comme saint Augustin, c'est-à-dire la mère du Christ tête et la mère du corps du Christ. Elle est donc la mère de l'Église dès qu'elle a dit oui et que l'Esprit Saint l'a prise sous son ombre, elle, le Verbe se fait chair en elle, elle porte toute l'humanité rachetée en son sein. Comme dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de la nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Le pape Pie X pouvait expliquer, c'est le texte 8 sur vos feuilles, qu'ainsi nous sommes tous sortis de la Vierge Marie. Nous pouvons dire, on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. La Vierge Marie est la vraie Sion, la cité sainte. En elle tout homme est né. Lisons le texte du pape Saint Pie X. Donc Marie, ayant dans son sein le Sauveur, a aussi porté tous ceux dont la vie était contenue dans la vie du Sauveur. Nous tous qui sommes unis à notre Seigneur, qui sommes, comme dit l'apôtre, membres de son corps, qui sommes de sa chair et de ses os, nous sommes sortis du sein de la Vierge Marie comme un corps spirituel attaché à Jésus notre chef. Donc nous aussi, d'une manière spirituelle et mystique, nous sommes appelés fils de Marie. Elle est notre mère à tous. Si saint Paul enfantait sans cesse des fils spirituels par sa sollicitude jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux, combien plus la mère immaculée du Christ peut se dire notre mère à tous. Cette maternité spirituelle va être manifestée par le Christ au pied de la croix. Nous sommes cette fois sur le calvaire. La Vierge Marie, non sans un dessein divin, est présente au pied du calvaire et elle s'entend proclamer « Mère du disciple bien-aimé, femme, voici ton fils ». La Vierge Marie entend aussi Jésus, son fils, dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est, on le fait remarquer souvent, le psaume 22 que Jésus récite. Mais nous le savons, et si vous allez lire ce psaume, c'est un des rares psaumes où par deux fois, il est fait question de la mère. « Toi, Dieu, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité sur ma poitrine. Dès le sein de ma mère, tu es mon Dieu. » La Vierge Marie a entendu probablement Jésus réciter ces versets de psaume. Et on comprend que, enserré dans les bras cruels de la croix, Jésus se souvienne des bras si tendres de la Vierge Marie. « Dès le sein de ma mère, tu es mon Dieu. Tu m'as mis en sécurité entre les bras de ma mère. » Jean-Paul II, vous le savez, fut un inlassable commentateur de la scène joannique, au point qu'il avait fait son blason, cette grande croix avec le M de Marie au pied et la devise « Totus tous ». Jean-Paul II dit que, du haut de la croix, Jésus a fondé le culte marial. Et Jésus, en disant « Femme, voici ton fils », manifeste Marie comme la nouvelle Ève. Vous vous souvenez que Ève a perdu un fils aussi. Ce fils s'appelle Abel. Caïn l'a tué. Et quand Caïn a tué Abel, Dieu donne un autre fils à Ève, qui s'appelle Seth. Et Ève dit, « Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. » Jésus, dont le sang crie plus fort que celui d'Abel, fait de Marie la nouvelle Ève, qui reçoit Seth, le disciple que Jésus aimait, Jean, pour devenir la mère des vivants. Après cette scène mariale en Saint Jean sur le Golgotha, il y a un petit verset de Saint Jean qui est très important. C'est le verset Jean 19, 28. Il dit ceci. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'Écriture fût pleinement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Il y a deux façons de traduire ce verset. La première façon est la suivante. Après quoi, sachant que tout était consommé, Jésus dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif ». Et la deuxième façon, qui est à la faveur des exégètes aujourd'hui, est la suivante. Après quoi, sachant que, afin que l'Écriture soit pleinement accomplie, tout était consommé, Jésus dit, j'ai soif. Autrement dit, dans cette deuxième façon, qui est la plus crédible, dans cette deuxième façon de découper la phrase, on voit que le plein accomplissement des Écritures, la consommation du plan de salut, c'est la scène qui précède, c'est-à-dire la manifestation de Marie comme nouvelle Ève. L'Écriture est bouclée, lorsque Marie est manifestée comme nouvelle Ève. L'acceptation de Marie au pied de la croix constitue le sommet de ce que le pape Saint Jean-Paul II appelait la kénose de la foi. Ce mot kénose vient, vous le savez, de l'épître aux Philippiens, où il est dit que le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, n'a pas retenu jalousement, en grec, n'a pas harpagonné, le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, eskénosen, prenant la condition de serviteur jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est là la kénose du Fils de Dieu. Il renonce à son rang divin, il s'anéantit. La Vierge Marie, elle, est appelée à renoncer à sa maternité divine. Elle avait un fils qui était le propre Fils de Dieu. Et voici que son fils lui dit, en désignant Jean, qui certes est un bon garçon, mais enfin qui ne fait pas le poids, elle lui dit, « Femme, voici ton fils. » Et Marie ne retient pas jalousement sa maternité divine, mais elle s'anéantit. C'est la kénose de la Vierge Marie. Elle renonce à sa maternité divine pour s'ouvrir à sa maternité spirituelle. Elle nous reçoit tous, nous les pécheurs, comme enfant. Vous vous rendez compte? C'est ce que le grand romancier Joseph Malègue appelle le remplacement monstrueux. Marie avait pour fils le propre Fils de Dieu. Et voilà qu'on l'invite à y renoncer pour nous accueillir, nous, les pécheurs, comme ses enfants. Et parce que Marie connaît cette kénose de sa maternité divine, elle va retrouver tout ce peuple et son fils lui-même au matin de Pâques. Elle devient vraiment notre mère dans l'ordre de la grâce. Sur le calvaire, c'est un enfantement dans la douleur qui s'accomplit. Marie, qui avait enfanté virginalement au jour de Noël et qui avait enfanté sans douleur le propre Fils de Dieu, enfante maintenant spirituellement dans la douleur, au pied de la croix, l'humanité tout entière. C'est ce que Rupert de Dötz, un théologien du XIIe siècle, dit magnifiquement dans le texte 9 que vous avez sur vos feuilles. La Vierge enfanta sans douleur la cause universelle du salut lorsqu'elle fut mère de Dieu fait homme de sa chair. Et maintenant elle enfante dans la douleur, debout sous la croix. Elle souffre, elle est dans la tristesse parce que son heure est venue, celle pour laquelle elle conçut du Saint-Esprit, parce que douloureusement elle enfante le salut de nous tous lors de la passion du Fils de Dieu. Elle est vraiment la mère de nous tous. C'est pourquoi le « Ecce mater tua » dit à saint Jean aurait pu être dit à n'importe quel disciple s'il eût été présent. La Vierge Marie fait preuve d'une foi admirable au pied de la croix. Pensons qu'elle contemple, lorsqu'elle est là sur le calvaire, l'exact contre-pied de tout ce qui lui a été annoncé par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui a dit « Ton fils sera grand ». Et elle voit qu'il est raillé, méprisé par tous, conspué. Gabriel lui a dit « Ton fils règnera sur le trône de David ». Et elle voit qu'il est pendu au bois de la croix. Marie voit l'exact contre-pied de tout ce qui lui a été dit, et cependant, elle croit. Stabat mater. Elle est là, debout, tout éveillée dans sa foi. Elle connaît cette douleur de voir son âme transpercée par le glaive, comme Siméon le lui avait annoncé. À vrai dire, la douleur de Marie, elle n'a pas commencé au calvaire. Il faudrait reprendre tout l'itinéraire de Marie et de voir à quel point elle fut, à toutes les étapes de son existence, Notre-Dame de la compassion. Souvenons-nous des circonstances difficiles de Noël, de sa naissance, lorsqu'il avait fallu accoucher là, dans une mangeoire. Souvenons-nous de son exil, tandis que les saints innocents étaient massacrés et qu'elle dut fuir en Égypte. Souvenons-nous de sa vie de Nazareth avec les rumeurs qui couraient sur cette naissance pas claire. Souvenons-nous aussi de ce jour où le Christ Jésus était parti, avait quitté la maison. Souvenons-nous de ce jour aussi où il est revenu à Nazareth. Là, il avait prêché dans la synagogue. C'est au chapitre 4 de saint Luc. Ça commence bien, Marie est heureuse, son fils a quelques succès, et puis voilà que tout à coup, il se dit, il y avait beaucoup de veuves en Israël, au temps d'Élie le prophète. Il y avait beaucoup de lépreux au temps d'Élisée, mais ce n'est aucun d'eux que le Seigneur a fait grâce, mais bien à cette veuve de Sarepta, mais bien à Naaman le Syrien. Alors, les compatriotes de Jésus et de Marie, les habitants de Nazareth, sont furieux. Ils prennent des pierres et ils veulent lapider Jésus. Quand je vais à Nazareth, j'aime beaucoup aller dans le petit oratoire qui est bâti à flanc de colline sur un escarpement de la ville qui s'appelle Notre-Dame de l'effroi. Songez à cet effroi de la Vierge Marie. Quand les gens de son village, qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite, qui ont vu grandir Jésus pendant 30 ans, quand les gens qu'elle affectionne le plus veulent tuer son fils en le lapidant. Et Jésus, lui, passe son chemin. Jésus Aoten y bat. Mais la Vierge Marie, elle reste. Sous les railleries, sous les moqueries, sous les invectives de ses propres compatriotes, de ses propres villageois. Et elle va vivre tout cela dans la foi et l'espérance. C'est cette foi admirable qui mérita aux souffrances de Marie leur efficacité rédemptrice. Comme dit le grand Bossuet, ne croyez pas que la Sainte Mère de notre Sauveur soit appelée au pied de la croix pour y assister seulement au supplice de son Fils et pour y avoir le cœur déchiré par cet horrible spectacle. Il y a des desseins plus hauts de la Providence sur cette mère affligée. C'est la volonté du Père éternel qu'elle soit immolée avec cette victime innocente et attachée à la croix du Sauveur par les mêmes clous qui le percent, mais encore associée à tout le mystère qui s'y accomplit par sa mort. Voilà, il faudrait méditer, bien sûr, sur le cœur de Marie, tel que saint Jean-Eudes l'a présenté, le cœur de Marie étroitement uni au cœur du Christ, au point de ne faire qu'un seul cœur. Mais je vois que le temps tourne, donc j'avance. Je voudrais vous parler, en effet, de Marie, première Église. En effet, lorsque Marie